m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Ce samedi 24 février 2024, l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la RDC, la région, appelé communément accord cadre d'Addis Abeba, totalise 11 ans depuis sa signature le 24 février 2013. Cet accord consiste en une initiative de paix visant, entre autres, à résoudre les causes profondes de la violence et des guerres à répétition de la RDC. Cet accord prévoit un certain nombre de réformes pour mettre fin au cycle des conflits de la part des groupes armés tant nationaux qu'étrangers, et des actes de violence sexuelle, des graves violations de droits de l'homme. En RDC, il a été mis en place un mécanisme de suivi en vue de la supervision de cet accord cadre d'Addis Abeba. Au regard de la guerre injuste imposée à la RDC par le M23 appuyé par le Rwanda, il a de quoi se poser la question du savoir que reste-t-il de cet accord cadre d'Addis Abeba. Alors, que pensez-vous de cet accord cadre d'Addis Abeba à 11 ans après sa signature? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi réagir en direct en composant les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. J.C. Chala est à la mise en nom de ce magazine et Stanislas Dumi assure la réalisation de la coordination. Au micro, c'est Marcel Ngobombala. Toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Et comme chaque fois, merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Également à ceux qui se sont déjà fait enregistrer pour réagir en direct. Alors, pour commenter ces sujets, nous allons avoir en ligne Julien Palou, conseiller gouverneur de la province du Nord Kivu. Il faut le dire, il est resté gouverneur de cette province de 2007 à 2019. La réalisation est en train de s'y affairer pour avoir Julien Palouc en ligne. Mais en attendant, je m'en vais déjà, avant d'ouvrir le standard aussi, d'avoir notre invité, lire déjà quelques réactions sur la page Facebook par rapport à ce sujet. Il y a cette réaction de Steve Baogwere, de Steve, voilà. Steve Aogu, oui, voilà, qui nous écrit depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. C'est avec un sentiment de désolation que moi, personnellement, je suis en train de constater la violation de cet accord par les Rwandais pays ennemis dans les chefs de la communauté internationale du silence radio. Comme le soi-disant accord ne produit pas de bons résultats, il est grand temps que notre gouvernement prenne ses responsabilités en vue de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui violent l'intégrité territoriale de notre cher beau pays. Que notre gouvernement sache encore que la paix sera une réalité lorsque la guerre dans l'Est sera une priorité. Voilà, ça c'est la réaction de Steve Baogwere depuis Bukavu. Nous avons également une autre réaction, c'est celle de son éminence Mwamba, c'est comme ça qu'il se présente. Tous les accords conclus avec la RDC pour la paix ou contre les crimes de guerre ou terrorisme ne qu'est aventure politico-internationale. La RDC n'a pas la chance d'avoir des bons collaborateurs sur le plan mondial avec ses régions comme potentiel, parce que le monde évolue, se développe que par le vol, les sangs congolais pillagent. La paix ne viendra que par des combats entre deux parties, quel que soit l'appui qui soutient l'autre partie. C'est ce que la RDC doit faire. Il y a également ces réactions de Jérémy Mwamba. Aussi longtemps que cet accord n'a résolu aucun problème. Bon, attendez, je veux bien lire ça. Aussi longtemps que cet accord n'a résolu pas un seul problème en rapport avec les régimes sécuritaires, cet accord n'a été que de figurant. Et par conséquent, la nécessité de requalifier les contenus, la teneur de celui-ci, envie de remettre la RDC dans ses droits spoliés plus de 3 décennies. Voilà, on me fait signe que notre invité Julien Palouco est en ligne. Monsieur Julien Palouco, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Voilà, vous êtes ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, il faut l'appeler. Vous avez été gouverneur de 2007 à 2019. Aujourd'hui, on va parler en tout cas de cet accord cadre d'Addis Abeba qui demain va totaliser 11 ans depuis sa signature à Addis Abeba le 24 février 2013. Donc demain, ce samedi 24 février 2024, cet accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la RDC, la région appelée communément accord cadre d'Addis Abeba, dont totalise 11 ans depuis sa signature le 24 février 2013. Alors, on le sait, cet accord consiste en une initiative de pays visant à résoudre les causes profondes de la violence et des guerres à répétition à l'est de la RDC. Cet accord prévoit un certain nombre de réformes pour mettre fin au cycle de conflits de la part de groupes armés tant nationaux qu'étrangers, des actes de violence sexuelle et des graves violations des droits de l'homme commis dans cette partie de la sous-région des Grands Lacs. Et en RDC, il a été mis en place des mécanismes de suivi en vue de la supervision de cet accord d'Addis Abeba. Mais au regard aujourd'hui de la guerre régiste opposée à la RDC par le M23 appuyé par le Rwanda, c'est tout à fait normal que une certaine opinion se pose la question de savoir de ce qui reste encore de cet accord cadre d'Addis Abeba. Si vous voulez bien, Monsieur Julien Palou, que nous rappeler d'abord le contexte de la signature de cet accord et que reste-t-il aujourd'hui de cet accord au vu du fait que l'insécurité, en tout cas, continue à sévir dans la partie est de la RDC, en tout cas dans cette partie de la sous-région des Grands Lacs?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez si bien introduit, cet accord, c'est un instrument de paix qui a été initié en 2013. Mais le contexte dans lequel il a été signé, effectivement, et celui d'une province en guerre, notamment le Nord Kivu, parce que vous le savez, entre 2007 et la signature de l'accord en 2013, on a vu successivement les CNDP, les M23 se succéder pour faire manquer du sommeil et de la paix à toute la population de l'Est de la RDC. Et même en novembre 2012, particulièrement le 20 novembre 2012, le M23 est allé jusqu'à prendre momentanément la ville de Goma pendant 11 jours. Et donc, c'est cet environnement de guerre-là, de non-paix, qui a poussé la communauté internationale et tous les acteurs à pouvoir mettre en place un cadre qui va permettre le retour définitif à la paix. Et donc, il a été demandé à tous les États de la région de pouvoir signer cet accord de paix et de sécurité à Addis Abeba pour définir les engagements entre les parties. Et là, il y avait les engagements pour la RDC, des engagements pour la région, c'est-à-dire tous les pays de la CIRG, la Communauté internationale de la région des Grands Lacs, et des engagements pour la communauté internationale. Alors, lorsque vous voyez effectivement cet accord, vous vous rendez compte qu'il constitue à la fois un instrument de paix et un piège pour la paix. Je vais m'expliquer. Un instrument de paix parce qu'il a permis effectivement de pouvoir stopper la guerre par un autre élément important, la résolution 2098 qui avait été votée par le Conseil de sécurité un mois après la signature de l'accord, c'est-à-dire le 28 mars 2013. Cette résolution créait une brigade au sein de la MONUSCO avec un mandat offensif dont l'émission était particulièrement de réduire l'expansion des groupes, de les désarmer et de les neutraliser en termes techniques, c'est-à-dire les tuer. Alors, c'est ainsi que en 2013, effectivement, la guerre contre le M23, qui s'est entêté à respecter les engagements contenus dans cet accord, la guerre a commencé, et effectivement, la brigade tanzanienne qui était aux côtés des FARDC a aidé à pilonner les positions des M23 au nord de Goma, pour ceux qui connaissent l'endroit, ça s'appelle Trois Antennes, et on a poursuivi la guerre jusqu'au 5 novembre 2012, les FARDC ont conquis le quartier général du M23 Tchanzu et moi je suis arrivé comme gouverneur un jour plus tard, le 6 novembre 2012, pour célébrer la victoire des forces armées et de découvrir les lieux où se planifiait effectivement la balkanisation de la RDC. C'était ça le contexte dans lequel l'accord a été signé à Addis Abeba. Alors ça constitue en même temps un piège, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on voit les engagements de la RDC, des pays de la région et de la communauté internationale, nulle part on a évoqué les engagements des pays qui nous font manquer la paix depuis 20 ans, à savoir le Rwanda d'une part et l'Ouganda de l'autre. Donc il n'y a pas d'engagement spécifique pour le Rwanda, il n'y a pas d'engagement spécifique pour l'Ouganda, ce qui fait que les engagements du Rwanda et de l'Ouganda sont dilués dans les engagements de la région des Grands Lacs. Et c'est ce qui met à mal l'évaluation de l'accord, étant donné qu'un pays ne se trouve pas avoir des engagements spécifiques qui lui sont destinés. Voilà les pièges qu'on a mis dans l'accord. Le deuxième piège, c'est que quand vous lisez les engagements de la RDC, on dit que la RDC doit effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. On se pose la question, que vient faire la décentralisation dans un accord de paix? Quand on voit par exemple les engagements de la région, on trouve que la région s'engage à ne pas s'ingérer les affaires intérieures, à ne pas tolérer ni fournir une assistance, par exemple, ou un soutien quelconque à des groupes armés, alors que tout le monde sait aujourd'hui que le soutien du M23 de la part du Rwanda est avéré de la part de tous les rapports des experts des Nations Unies. Lorsqu'on voit par exemple Bunagana, pour ceux qui ne connaissent pas Bunagana, Bunagana se trouve à la frontière non pas avec le Rwanda, mais avec l'Ouganda. C'est une douane que nous partageons, nous la RDC, avec l'Ouganda. Et c'est là que passe effectivement tous les matériels logistiques qui viennent renforcer le M23 dans les Rutshuru. Alors la question qu'on se pose, l'Ouganda qui est signataire de cet accord cadre, comment s'est-il engagé à ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien à un groupe armé, mais en même temps, il sert sa frontière pour le passage de la logistique nécessaire pour alimenter les groupes armés qui opèrent dans les Rutshuru. Donc voilà plus ou moins la confusion, les éléments contenus dans cet accord qui nous amène à faire une évaluation plutôt mitigée des 11 ans de l'existence de cet accord, qui pourtant au départ était perçu comme un instrument de paix.
Alors une évaluation plutôt mitigée, vous avez parlé même de pièges, ces pièges qui concernent les engagements de la RDC, et alors que les autres pays, notamment l'Ouganda et le Rwanda, ils n'avaient pas d'engagement. Alors parmi ces engagements de la RDC, lorsque j'essaie de revoir cet accord, on a parlé comme engagement de continuer à approfondir la réforme du secteur de sécurité en particulier, à ce qui concerne la police et l'armée. Est-ce que ce sont des engagements au niveau de la RDC qui ont pu quand même être respectés, parce qu'il y a eu des réformes au niveau de l'armée et de la police?
Donc voilà une contradiction de cet accord. Vous savez, quand vous lisez les engagements de la région, donc tous les pays de la région, il y a un premier engagement qui dit on ne doit pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Alors quand nous, on nous demande de réformer notre système de sécurité, c'est une matière interne à nous. Quand on nous demande de nous retrouver la décentralisation, c'est une matière interne à la RDC. Vous voyez déjà que l'accord lui-même viole une autre disposition du même accord qui demande qu'on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'un État. Et donc, s'agissant de la réforme du secteur de sécurité, comme vous le dites, effectivement, c'est un défi auquel la RDC fait face depuis plusieurs années. Et tous les accords que nous avons signés depuis 1999, je peux vous en citer certains, l'accord de Lusaka, l'accord de sécurité de Lusaka de 1999, l'accord de San City de 2002, le pacte sur la stabilité de 2006, l'accord de Ngurdoto entre la RDC et l'Ouganda au sujet des groupes armés LRA et EDF, le communiqué de Nairobi entre la RDC et le Rwanda au sujet des FDLR et tous les autres accords. Vous comprenez que ces des accords, finalement, une multitude d'accords venus embrouiller la marche vers la réforme de notre système de sécurité, parce que simplement tous ces accords ont débouché sur l'intégration des groupes armés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo depuis 1999 jusqu'à presque 2013. Et donc, l'évaluation tout de suite des accords de paix que nous avons signés nous amène à considérer que nous avons été piégés par la communauté internationale et par les pays de la région pour nous empêcher effectivement de satisfaire au premier engagement qui était celui de la réforme du secteur de sécurité. Voilà pourquoi aujourd'hui, et là je salue la position du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, il est clair par rapport aux différentes négociations, parce que les négociations vont déboucher sur un nouvel accord qui va nous amener encore à intégrer des groupes rebelles, des bandits, des criminels, des terroristes au sein de nos forces armées, et ça va nous empêcher effectivement d'avoir une armée puissante, une armée capable de faire face aux défis. Les autres pays de la région ont perçu ces dangers-là, et heureusement que nous, de notre côté, nous avons également perçu ces dangers, ce qui fait que le président de la République, même de par la communication qu'il a faite à la RTNT, il a dit qu'il ne veut plus parler aux groupes armés, mais il veut parler aux mentors de ces groupes armés, ce qui les pousse à venir déstabiliser la RDC. C'est pour nous empêcher d'avoir des accords qui permettraient d'intégrer des groupes armés entièrement au sein de nos forces armées et de venir à l'intérieur ronger la quintessence de nos phares d'essai qui pourtant ont l'ambition d'être une armée puissante au cœur de l'Afrique.
Alors avant d'ouvrir les standards et d'avoir en tout cas des avis des auditeurs par rapport à ces questions, est-ce qu'il faut dire maintenant ces jours, cet accord cadre d'Addis Abeba, entre la lumière de ce que vous venez d'évoquer par rapport aux pièges qui ont émaillé cet accord, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Quel reste-t-il réellement de cet accord cadre d'Addis Abeba?
Bon, ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que comme on ne peut pas évoluer en vase clos, c'est-à-dire à marge de la région et de la communauté internationale, c'est que l'autorité de la RDC est en train de faire, c'est de ramener tous les pays de la région, la communauté internationale, à la révisitation de cet accord, oui, pour qu'on puisse enlever tous les pièges contenus dans l'accord, de manière à avoir un accord favorable à la République démocratique du Congo, mais aussi un accord qui définit les obligations et les engagements et du Rwanda et de l'Ouganda. Mais l'accord ne doit pas se limiter là, il doit prévoir des mécanismes de sanctions de ceux qui auront violé les dispositions de cet accord. C'est né à ce stade-là que peut-être nous pourrions arriver à une paix définitive. Mais lorsqu'on donne un accord qui est seulement une déclaration ou un chapelet d'intention, sans qu'il y ait un mécanisme de sanctions, eh bien, tout le monde peut les violer, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Rwanda, qui a même posté des missiles anti-aériens au niveau de la RDC, alors que l'accord cadre d'Addis Abeba dit qu'aucun État ne peut violer les frontières de notre ni soutenir un groupe armé qui opère dans un État voisin. Donc, les mécanismes de sanctions ont manqué à l'accord. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de contraintes à appliquer à un pays lorsqu'il viole l'accord. Donc la révisitation de l'accord est une nécessité et je crois que pas plus tard que cette année 2024, cet accord devrait être révisité de manière à lui rendre favorable à la paix au Congo, parce que la multitude d'accords, j'ai recensé parce que j'ai fait des recherches doctorales sur la question des conflits armés de la région des Grands Lacs, j'ai recensé plus de 22 accords signés depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui qui ont étaient des instruments de distraction de la RDC, mais à un moment donné, on doit les reconnaître, qui ont permis une stabilité de façade, mais qui n'en est pas une, parce que simplement, depuis 20 ans, le pays n'a jamais été stable.
Voilà, il faut maintenant des accords qui vont amener à une stabilité durable, et surtout, vous avez insisté, il faut mettre en place absolument un mécanisme de sanction. On revient à vous, Monsieur Julien Paluku, il est temps pour nous d'ouvrir les standards. Nous avons déjà en ligne Dieudonné Chilombo, qui nous appelle de Kinshasa, André Mabili, qui est à Nitori, et Pati Maïmba, qui est à Bandundu. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens, Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de cet accord cadre d'Addis Abeba qui va totaliser ce samedi 24 février 2024, 11 ans d'existence depuis sa signature le 24 février 2013. Si vous voulez intervenir, le numéro d'appel c'est les 081 890 60 30 ou les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Dieudonné Chilombo nous appelle de Kinshasa. Bonjour Dieudonné Chilombo.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Kapi. Bonjour également aux invités et aux étudiants.
On vous écoute, Dieudonné.
Merci beaucoup, M. Marcel. Il est indéniable que l'accord d'Addis Abeba était un pas important vers la paix et la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs, M. Marcel. Cependant, face à la persistance des conflits et des violations des droits de l'homme à l'est de la RDC, il est légitime de se demander dans quelle mesure cet accord a été effectivement mis en œuvre et s'il a réussi à résoudre les cas approfondis de conflit. Monsieur Marcel, la question que nous nous posons cette fois-ci est que quelles sont les mesures concrètes prises par le gouvernement pour garantir la pleine mise en œuvre de l'accord d'Addis Abeba et pour assurer la sécurité et la protection des civils dans les zones affectées par les conflits à l'est de la RDC. Parce que, monsieur Marcel, vous voyez ce qui se fait ici chez nous au Congo, c'est quoi? Nous avions des bons plans et des bons accords, mais nous manquons le temps d'évaluer à chaque fois pour voir ce qui ça y est un accord ou pas. Monsieur Marcel, je ne sais pas si nos autorités aussi ont l'habitude de suivre quand même de telles émissions afin d'en tirer aussi profit de différentes propositions. Et si c'était parfois les ingénieurs, on allait poursuivre l'État. Monsieur Marcel, je m'excuse. J'aimerais au moins que le gouvernement, qu'il évalue cet accord et qu'il en tire profit et qu'il nous propose, qu'il nous dise, nous voulons assurer la paix à l'est du pays, qu'il nous évalue quand même cet accord d'Addis Abeba. Merci beaucoup.
Voilà, merci. Dieudonné Tshilombo, mais vous avez suivi l'invité qui a également salué ces accords, mais malheureusement, comme il a évoqué Julien Paluku, il y a des mécanismes qui devaient être mis en place, par exemple des sanctions, ce qui n'a pas été fait. Et il y a, c'est vrai, si cet accord a apporté quand même une certaine stabilité à un certain moment, mais il faut maintenant des accords qui apportent une stabilité durable avec des engagements bien précis et surtout il a insisté de mécanismes de sanctions afin que de pays qui vont signer ces accords qui vont violer leurs engagements soient sanctionnés. Voilà. Merci à Dieudonné Tshilombo d'avoir appelé depuis Kinshasa. André Mabélé, vous êtes à Nitori. Bonjour André Mabélé.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bien, je pense que jour pour jour, nous totalisons déjà presque un mois de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba qui avait pour mission d'initier la paix, puis encore les causes profondes de la violence et des guerres de répétition à l'est de la RDC. En fait, cet accord cadre d'Addis Abeba, malgré sa mission et le mécanisme de suivi à vue de supervision des territoires de la RDC n'est pas à la hauteur de porter solution ou encore résoudre cette crise de l'est de notre pays. Et maintenant, si nous évaluons dès la signature de cet accord cadre dénommé d'Addis Abeba, il y a 11 ans presque, quel est maintenant son apport par rapport à sa signature à notre pays? Je pense presque qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut évaluer positivement qui permettra des solutions, surtout par rapport à l'écriture qui se passe donc de l'est de notre pays. Je pense aussi également qu'il n'y a pas presque de traces de l'accord de ce pays-là si ce n'est que peut-être nous trouver la tête de demander qu'on parte pour le dialogue ou soit pour des négociations avec les pays qui soutiennent les rebelles de l'Est de notre pays.
Voilà, vous avez suivi à André Mabélé que l'invité est revenu sur ça. Il faut absolument revisiter cet accord de Nairobi parce qu'il estime qu'il a du pouvoir sur lequel, en tout cas, la RDC a été bel et bien piégée. Merci André Mabélé d'avoir appelé depuis Ituri. Patty Maïmba, vous êtes à Bandundouville, j'imagine. Bonjour Patty Maïmba.
Oui, bonjour. Bonjour Radio Okapi. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
On vous écoute.
Bon, d'accord. C'est que moi, je voulais dire, mon point de vue était celui-ci. Vous voyez, les accords nous en aurons avec nos pays voisins ici. Nous aurons toujours les accords à chaque fois. Maintenant, notre pays, la RDC, c'est comme une famille qui n'a que des belles filles. Vous voyez, donc un parent ou une famille qui a des belles filles, Maintenant, il n'y a pas moyen qu'il négocie avec les violeurs du quartier. Oh, vous voyez, vous soyez ici, si quelqu'un autre cherche à venir, si vous voyez mes filles ici sortir, mettez de l'ordre. Non. Vous-même prenez les responsabilités de votre famille pour que ces voleurs-là ne viennent pas accéder à votre famille. Notre pays a beaucoup de minéraux. Tout le pays sous-siat ici, les pays voisins ici, que moi j'appelle le pays sous-siat, ils n'ont pas ce que nous avons. Pour que nous ayons la paix dans notre pays, nous n'irons pas négocier avec ces pays sous-siat-là pour qu'à partir d'eux, que nous ayons la paix. La paix ne se sollicite pas. La paix, c'est vous-même qui allez l'imposer à ce pays sous-siat. C'est à nous d'organiser d'abord notre système sécuritaire. Voir les petits services là de l'ANR, voir du côté la police, notre armée, qu'est-ce qu'il faut avoir donc une logistique du côté armé, mettre de l'ordre dans notre pays nous-mêmes. Voyez dans la Bible ici, Jésus a dit, un royaume divisé ne subsistera jamais. Nous-mêmes, qu'on mette de l'ordre dans notre pays, tous ces voisins ici, tous les petits sous-siats ici, ils vont emballer bagages, ils vont aller. Ces gens ici ne font pas les accords. Ils ne respectent pas parce qu'ils profitent d'abord de notre désordre. Ils nous profitent. Quel accord? Regarde, on s'est entendu qu'aucun pays voisin ne peut laisser les ennemis de notre pays venir s'entretenir là. Mais qu'est-ce qui se passe en Nairobi? Il y a un certain monsieur ici qui a bouffé dans un de ces pays ici, mais quelqu'un qu'on a donné confiance, il a dirigé même une grande institution de ce pays, monsieur Corneille Nanga. Aujourd'hui, il est là en train de s'entraîner pour venir détruire la RDC. Il est en Nairobi. Est-ce que ces gens-là, ils sont fidèles dans ces accords? Oublions ces histoires-là d'accord. S'il s'agit de réviser, revoyons encore ces accords-là. Mais nous-mêmes, qu'on mette de l'ordre dans notre pays, que notre administration, ces gens-là sont en train de nous infiltrer du côté frontière. Nous n'avons pas la sécurité là-bas. Les gens qu'on met là, il suffit qu'on lui donne 2 000. Il suffit qu'on lui donne 5 000. Ils laissent passer les ennemis. C'est là où il y a les problèmes. Là, nous nous attendons que nous aurons la paix quand nous irons négocier avec ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont rien à nous donner ici. Au contraire, ils profitent les biens qu'il y a chez nous ici.
Voilà, donc, merci. Voilà. Merci, Pati Maïmba de PDP Bandundu. Vive vous aussi, vous êtes pour la révisitation de cet accord. Alors, avant de passer la parole à Maître Joseph, qui nous appelle depuis Bukavu, je m'en vais lire cette réaction de Georges Ekokwa Nkana, depuis la ville de Mbandaka. À mon avis, la RDC devrait déjà penser à une autre chose pour rétablir et maintenir sa sécurité d'autre manière, car l'accord d'Addis Abeba n'a produit aucun effet positif pour la sécurité. Il s'est dit qu'avant même la signature de cet accord, on avait quand même une paix dans cette partie du pays, est-ce la RDC. Mais depuis la signature de cet accord, l'insécurité est devenue de plus en plus. L'insécurité est toujours de mise dans cette partie du pays. C'est pour dire que le pays doit penser à finir cette insécurité et finir cette insécurité en sollicitant l'aide des États de l'Orient tels que la Chine, la Russie et la Corée. Voici, ça c'est Georges Kana et Kokwa qui nous a écrit depuis Manaka sur la page Facebook par aux auditeurs. Maître Joseph, vous nous appelez depuis Bukavu. Bonjour Maître Joseph.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité et à tous ceux-là qui suivent la radio Kapi en ce moment.
Vous avez la parole.
Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, ce sont des hommes qui font des lois, ce sont des hommes qui font des accords, et ce sont des hommes qui font même des conventions et des traités. Alors, ce qui fait beaucoup plus mal est que ces hommes-là, souvent, font ces accords-là avec hypocrisie.
Oh, Maître Joseph, il y a qui soucie avec votre ligne.
C'est à quoi vous vous êtes engagé. C'est là où il y a les problèmes. Alors, tous ces accords qu'on a déjà signés, des paix, des petits, c'est là, tous les traités que la RDC a déjà adhéré, que ce soit dans les domaines politiques, dans les domaines économiques, dans les domaines monétaires, dans tous les domaines que nous avons déjà signé des conventions, des petits, c'est là, mais il n'y a pas d'effet positif. Nous sommes en train d'accroupir, nous sommes en train d'être massacrés, nous sommes en train d'être tués pendant que les lois sont là. Et donc, moi, à mon avis, je vois qu'il est d'abord important de respecter les lois, ce qui est vrai, mais lorsqu'on viole la loi intentionnellement, là, maintenant, vous aussi, vous ne pouvez pas croiser les bras. Il faut voir d'autres voies que vous pouvez prendre pour instaurer la paix dans votre pays, même par la voie de force. Et donc, à ce stade où nous sommes, il faut d'abord s'en ficher de tous ces accords-là, il faut d'abord s'en ficher de toutes ces lois-là, parce que vous êtes attaqués. Les lois sont là, ne respectez pas les lois, vous respectez les conventions. Je n'ai jamais vu aucun pays que la RDC a déjà agressé. La RDC n'a jamais tué. Même un coq, un Congolais a la peur même d'égorger une vache. Mais il y a d'autres États qui agressent, qui pillent et qui font ceci et cela. Pendant que nous avons signé avec eux des lois, nous partageons presque les mêmes textes légaux avec eux dans tel ou tel autre domaine. Ça, c'est quoi? Et alors, à ce stade où nous sommes, nous ne pouvons pas croiser les bras. Et même si cet accord-là fait 11 ans, mais sans effet, nous sommes en train d'accroupir. Les États signataires ne font rien, ne respectent pas ces États-là. Pendant qu'il y a un droit international, le pacte sur le Rwanda, les conventions doivent être respectées. Ça, c'est un principe.
Donc, Maître Joseph.
Les autres États s'en fichent et ne font rien. Alors, nous aussi, nous ne pouvons pas croiser. Il est temps maintenant que le gouvernement puisse développer d'autres mécanismes pour rétablir la paix dans notre pays.
Donc, vous pensez que, puisque les autres pays signataires de certains engagements ne sont pas respectueux de ces engagements, vous voulez aussi que la RDC leur emboîte le pas, c'est ça?
Non, en principe, quand vous adhérez dans une convention, il y a des conventions qu'on appelle multilatérales ou bilatérales, là où les obligations sont réciproques. Vous tous, vous êtes censés à respecter ce à quoi vous êtes engagé. Maintenant, lorsque vous ne les respectez pas, ou il y a un État qui ne respecte pas intentionnellement, parce qu'on peut respecter, on peut violer une convention, mais c'était une violation non intentionnelle. Mais pour les cas du Rwanda et d'autres pays qui nous agressent, c'est une violation intentionnelle. Ils savent déjà qu'ils violent l'accord, et l'accord est là depuis 11 ans. Ils sont tenus à respecter, mais ils violent ça intentionnellement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas se croiser les bras. Nous ne pouvons pas violer cet accord-là, mais il faut définir d'autres mécanismes pour faire à ce pays-là de respecter la convention ou pour faire à ce que notre droit soit respecté par ce pays-là-bas. Il y a des instances judiciaires, hein? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y a des instances. On a signé des accords là. Nous avons la Cour internationale de justice. Nous avons la Cour pénale internationale qui juge les individus. Pourquoi ne pas traduire ces individus-là en justice pour qu'ils puissent répondre? Et si on les traduit là, on ne trouve pas la solution. Donc ces instances-là aussi seront considérées comme complices. C'est là où nous allons voir maintenant d'autres mécanismes, d'autres voies pour faire respecter notre pays, comme on le voit hier avec la Russie, on le voit avec l'Afghanistan et parti et part et d'autre. Parce qu'aucun peuple ne peut venir instaurer la paix chez nous en RDC si nous ne sommes pas d'abord les premiers à faire instaurer et respecter cette paix là-bas
Voilà, merci Maître Joseph d'avoir appelé depuis Bukavu. Julien Paluku, vous avez suivi les uns les autres, en tout cas par rapport non seulement à cet accord cadre d'Addis Abeba, mais par rapport à d'autres accords signés pour la paix dans cette partie de la sous-région, mais qui où la sécurité continue toujours en tout cas à sévir. Est-ce que comment vous réagissez par rapport aux interventions des uns des autres?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par saluer tous les intervenants. Je sens l'exaspération, je sens la colère, je sens les soucis effectivement pour chacun des Congolais, y compris ceux qui nous suivent, de voir la RDC recouvrer ses lettres de noblesse, recouvrer son statut de leader au cœur de l'Afrique. Je voudrais dire deux ou trois choses. La première, c'est que, en fait, entre les États, il n'y a pas d'amour. Ce sont les intérêts. Et lorsqu'un État trouve qu'il peut trouver ses intérêts par une pratique comme celle qui est faite par le Rwanda ou l'Ouganda, eh bien cet État le fera pour autant qu'il trouvera que son correspondant n'est pas en place un dispositif qui le lui empêche. Ça, c'est des principes généraux en termes de gestion des États. La deuxième chose, c'est que nous avons organisé les premières élections en 2006. Nous sommes en 2024, ça fait 18 ans. Je pense que nous avons atteint l'âge de la majorité, comme un jeune monsieur qui a 18 ans, qui a l'âge de la majorité, qui a compris maintenant comment fonctionnent les choses. Et donc moi je considère que tous ces temps que nous avons passés, tous les accords que nous avons signés, tous les ratés que nous avons connus, nous permettent aujourd'hui d'entrer dans l'âge de la majorité, de la compréhension des erreurs que nous avons commises pour ne plus les commettre. Et vous avez vu qu'un auditeur nous a demandé, mais quelles sont les mesures concrètes qui doivent être prises? Les mesures concrètes ont été évoquées par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est notamment le renforcement de notre armée. Le recrutement a été fait de 40 000 hommes, 40 000 militaires, pour renforcer les effectifs de notre armée, pour faire face à toutes les aventures qui nous viennent. Tenez, qui peut attaquer l'Angola aujourd'hui? Personne. Pourquoi? Parce que l'Angola est une puissance militaire. Si vous l'attaquez, le lendemain, il est chez vous. Et donc, la paix viendra définitivement dans la région des Grands Lacs, lorsque parmi les pays voisins, notamment les Rwandais et l'Ouganda, chacun des chefs d'État de ces pays-là saura que, en entrant en RDC, dans les 48 heures, on est soit à Kigali, on est soit à Kampala. C'est le jour où, effectivement, il y aura la paix à l'est de la RDC. Pourquoi? Parce que nous avons les 60 à 80% des réserves mondiales du coltan. J'ai dit 80% des réserves mondiales du coltan. C'est dans la mine de Rubaya, dans les territoires de Masisi. Nous avons la cassitérite, nous avons l'étain dans les territoires de Walikale, nous avons l'or. Et donc, si on ne met pas en place des mécanismes de sécurisation de ces richesses, c'est tout à fait normal pour les autres de venir se les approprier pour s'enrichir. Parce que tout le monde sait, ceux qui connaissent les États de la région des Grands Lacs, que le Rwanda, c'est un pays pauvre. Mais aujourd'hui, il est présenté à la face du monde comme étant un pays de la prospérité, alors que le chef de l'État l'a bien qualifié, c'est un receleur. Receleur, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui chez qui on attrape les produits du vol. Donc, il prend les minerais de la RDC, ils en font les leurs, et ils se présentent au niveau du marché international comme étant des producteurs de coltan, des producteurs de cassitérite, etc. Et donc, le président de la République a commencé la réforme de son armée, et la montée en puissance d'une armée ne se décrète pas à la radio. Parce que si on doit chaque fois dire les étapes où nous sommes arrivés, eh bien, l'ennemi va prendre aussi ses dispositions. Voilà pourquoi le chef de l'État dit, prenons le temps au temps, laissons le temps au temps. Les douleurs que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Et ce nouveau Congo est en train d'arriver. Ça a pris le temps. Qu'est-ce que ça peut prendre? Mais avec Félix Tshisekedi, donnons-nous le temps de voir ce qui sera fait demain pour définitivement mettre un terme aux atrocités que connaît l'Est de la RDC avec des accusations fallacieuses de la part du Rwanda comme les FDLR, comme la haine tribale, alors qu'il n'y en a pas ni FDLR ni haine tribale. Moi, j'ai été gouverneur pendant 12 ans. Je sais combien de FDLR on a rapatrié à Kigali et combien sont revenus en RDC par un phénomène que j'appelais et que le président a bien explicité dans son point de presse, les recyclages des FDLR. C'est-à-dire, les FDLR sont envoyés au Rwanda, mais ils sont renvoyés de nouveau en RDC sous d'autres couvertures pour venir semer des troubles et pour aider les Rwandais à avoir le prétexte qu'il y a toujours des FDLR au Congo. Ce sont ces genres de malices que nous avions dénoncés du temps où nous étions gouverneurs et aujourd'hui comme membre du gouvernement central, même si je n'interviens pas ici comme ministre, eh bien, je me dois de continuer à dénoncer ce genre de comportement pour que la communauté internationale, qui a été aveuglée en fait par les génocides commis au Rwanda en 1994, que nous regrettons tous, pour que cette communauté internationale cesse d'avoir une compassion envers les Rwandais à cause du génocide et oublier l'autre génocide que ce même Rwanda est en train de commettre à l'est de la RDC, où nous avons près de 10 millions de morts et près de 500 000 femmes violées à la suite de la barbarie du Rwanda. Et donc la démarche de la RDC, comme ont dit les intervenants tout à l'heure, devrait être également de saisir les différentes cours au niveau international pour que les Rwandais soient justiciables devant la Cour pénale internationale. Malheureusement, les Rwandais avaient utilisé une malice. Il n'a pas ratifié les statuts de Rome qui institue la Cour pénale internationale. Ça veut dire que même si on l'amenait à la CPI, eh bien, le Rwanda n'est pas passible étant donné qu'il n'a pas ratifié les statuts de Rome. Donc il a fait ça sciemment pour se soustraire des sanctions internationales parce qu'il savait ce qu'il était en train de vouloir faire. Mais l'important pour la RDC, ce n'est ni aller à la Cour pénale, c'est de se renforcer au niveau interne pour qu'aucun État ne puisse oser un jour entrer en RDC, violer ses frontières, sinon, eh bien, il verra la RDC à ses portes.
Voilà,
ce n'est qu'à ce moment-là qu'on mettra un terme à toutes les aventures auxquelles nous avons participé pendant longtemps.
Voilà, vous avez dit, c'est connu au grand jour, en tout cas c'est le monde entier, hein, s'il faut le dire comme ça, qui a le regard tourné vers tout ce qu'il y a comme richesse dans cette partie, en tant que RDC, notamment dans cette partie du pays, et en tout cas il y a assez de convoitises par rapport à toutes ces richesses, mais vous avez dit également la RDC est souvent respectueuse des accords, malheureusement c'est pas le cas pour les autres parties, et vous avez insisté qu'il faut revisiter ces accords, notamment l'accord cadre de d'Addis Abeba, parce qu'il avait, selon vous, certains pièges par rapport à la RDC. Et vous avez parlé de mécanismes de sanctions. Mais dites-nous clairement, comment envisager des mécanismes de sanctions lorsque tout le monde sait, par exemple, cette communauté internationale, ça également, on s'en cache plus et n'est pas aussi... Et entre guillemets aussi complice de tout ce qui se passe à l'est du pays, du fait qu'il n'y a pas de sanctions, du fait qu'il y a ce silence de la communauté internationale.
Oui, effectivement, vous avez dénoncé là, bon, pas dénoncé, vous avez évoqué là un aspect important, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale. Cette communauté internationale sera toujours hypocrite. En fait, moi j'ai toujours une thèse que je défends, c'est que la communauté internationale suit les comportements des États. Lorsque vous vous montrez un État faible, eh bien, la communauté internationale va se comporter selon la faiblesse que vous démontrez. Lorsque vous montrez un État fort, la communauté internationale va suivre effectivement ce que vous démontrez à la face du monde. Et donc, voilà pourquoi le président de la République a perçu la faiblesse de l'État congolais. Tous ces accords que nous avons signés, de 99 à aujourd'hui, ont eu pour objectif d'affaiblir effectivement notre armée. Malgré tout ce que nous avons engagé comme résultat, comme réussite, mais in fine, les réussites n'ont pas été suivies d'une durabilité parce que l'armée était rongée de l'intérieur. Et donc on doit extirper ce qui ronge l'armée de l'intérieur par le recrutement qui a été fait aujourd'hui de manière à nous permettre d'avoir un instrument de souveraineté, un instrument des violences physiques qui constituent le monopole de cet instrument-là par nos forces armées. Maintenant, les sanctions, qu'est-ce que nous devons faire? Au-delà de devoir nous renforcer militairement, nous devons identifier tous ces États hypocrites. Vous avez suivi dernièrement, et le président de la République l'a dénoncé dans son point de presse, comment l'Union européenne signe l'installation d'une chaîne de valeur de matières critiques ou stratégiques au Rwanda. Alors que le Rwanda n'a ni lithium, ni cobalt, ni manganèse, ni nickel qui entrent dans la chaîne de valeur, par exemple, de fabrication de batteries électriques. Qu'est-ce que ça traduit et qu'est-ce que ça transpire? Ça fait transpirer l'idée que nous signons un accord avec vous pour que vous continuiez à piller les richesses de la RDC et installer ici une chaîne de valeur. Maintenant que cela est découvert, nous devons monter au créneau en renforçant notre armée, en dénonçant cela au niveau de la communauté internationale et l'Union européenne qui est pourtant à constituer des pays et pris de paix, va devoir se rédiger face à cette ignominie telle que cela a été qualifiée par le président de la République. Et peut-être demain, on verra l'Union européenne revenir sur ses pas par rapport à cet accord. Parce que lorsque vous soutenez un pays qui agresse un autre État, ça veut dire vous-même, vous devenez agresseur. Et donc, je ne pense pas que l'Union européenne, aujourd'hui, se satisfasse d'être considéré comme agresseur de la République démocratique du Congo à travers son pantin qui est effectivement les Rwandais qui l'utilisent depuis tout ce temps. On a vu la Pologne vouloir signer des accords militaires avec les Rwandais alors qu'il se prévaut être de l'Union européenne, ce qui nous enseigne la démocratie, ce qui nous enseigne le respect des droits de l'homme. Tous ces éléments-là, nous, la RDC, nous devons les dénoncer au niveau international, au niveau des tribunaux, tel que le chef de l'État l'a dit, mais en interne, ça ne suffit pas. Nous devons nous organiser pour construire un instrument de souveraineté, un instrument de puissance publique qui nous permettrait de faire face à toutes les aventures d'où qu'elles viennent.
Voilà.
Ce n'est à ce moment-là, effectivement, que la RDC sera en paix.
Ouais, je n'ai pas lu qu'on va accorder la parole aux trois derniers auditeurs et puis on va conclure avec vous. Alexis nous appelle depuis Goma. Bonjour Alexis. Alexis, vous êtes à Goma. Apparemment, il y a quelques soucis avec la ligne d'Alexis depuis Goma. Alors là, on va aller à Lubumbashi et retrouver ingénieur Samy. Bonjour ingénieur Samy.
Bonjour, ma radio, c'est ingénieur Samy depuis Lubumbashi. Je suis le cadre de l'uniforme Union des Forces Matipicha. Pour intervenir à cette préoccupation du jour, j'ai dit notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un État indépendant, nous avons notre constitution et on peut intervenir aussi des accords tant national et international. Mais ce que je me demande, c'est quel genre d'accord que nous parlons, parce que l'accord cadre de l'Addis Abeba n'a aucun intérêt pour notre pays. Cet accord privilégie beaucoup plus le Rwanda et il a poussé à une infiltration totale dans notre pays. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, si on n'arrive pas à maintenir la paix, c'est parce que notre pays est infiltré à tous les niveaux. Et moi, je peux suggérer comme proposition, afin que cela ne puisse pas intervenir, c'est d'avoir d'abord interdire ou soit dire à tous les militaires qui sont infiltrés notre armée, les militaires surtout étrangers, de pouvoir abandonner leur poste bien avant. Et s'ils ne parviennent pas à faire cela, on doit appliquer même la démagogie, leur coller les motifs afin qu'ils puissent libérer, parce que c'est ça même la source de tous les maux que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est parce que notre armée est infiltrée. J'invoque un adage ou soit une parole d'un colonel Donatien Makelele qui a dit si le service de sécurité n'arrive pas à maintenir ou soit n'arrive pas à la criminalité, c'est parce qu'il y a encore des criminels au sein des services de sécurité. Ça veut dire que si notre président de la République, d'abord, j'ai beaucoup aimé son intervention à Addis Abeba quand il a dit on a besoin de la paix, mais pas à n'importe quel prix. Oui, la paix reste à gagner, mais si on songe pour gagner cette paix, on doit réorganiser notre armée.
Voilà.
Un pays normal.
Voilà, merci à vous aussi. Attends, vous êtes d'avis, ça c'est en tout cas de tous ceux qui ont intervenu. Il faut absolument une montée en puissance de notre armée. En tout cas, c'est ce qui est en train déjà d'être fait en suivant les différentes interventions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, on va prendre le tout dernier auditeur, Guy Kamboui, qui nous a appelé depuis Kananga. Bonjour Guy Kamboui.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, en une minute, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, en une minute, la RDC qui est victime, c'est celui qui fait l'effort de respecter cet accord d'Addis Abeba. Et le reste des contractants font semblant de respecter l'accord d'Addis Abeba. Et la communauté internationale est en train de jouer un jeu de poids, de mesure dans cet accord. C'est seulement, vous voyez, du côté congolais où il y a des réunions, quand on convoque, ce sont eux qui sont les premiers à les répondre, qui montrent la bonne foi. Mais nos amis d'en face, le Rwanda et les autres, sont des jeux de malins pour nous voir comme des dupes. Alors, nous recommandons que l'armée puisse monter en puissance et qu'on puisse attaquer le Rwanda par force et qu'on puisse affronter, qu'on voit qui sont les meilleurs sur le plan tactique qui vont éliminer les autres. Et on va mettre fin à cette histoire-là, parce que l'accord a pris ses limites. Voilà un peu quelques comptes, moi, ma contribution, monsieur le journaliste.
Voilà, merci Guy Kamboui depuis Kanangré. Cette réaction de Jean-Lucien Isolé, il est temps pour l'État congolais, c'est une réaction sur la page Facebook par les auditeurs, il est temps pour l'État congolais et son peuple de prendre des décisions, de pouvoir s'autodéterminer. Aucun accord serait gratuitement en faveur de notre pays. Preuve, tous ces fameux accords signés. Aucun n'a porté résolution à la paix à l'est de notre pays. Il n'est pas caché que les Occidentaux ne voudront jamais notre bien-être parce que ils ont besoin de nos richesses. Voilà, c'est Jean-Lucien Isolé qui a réagi, qui nous a écrit sur la page de Facebook par nos auditeurs depuis Mbandaka. Voilà, on va conclure avec notre invité, Julien Paluku, moi pour aujourd'hui. Vous l'avez dit, Julien Paluku, il y avait deux accords qui ont été signés à trois pour ce qui est de l'instauration, de la restauration de la paix dans l'est de la RDC, mais ces accords, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore donné de résultats vraiment satisfaisants parce que l'insécurité continue encore à sévir dans l'est de la RDC. Et pour ce qui est spécialement de l'accord d'Addis Abeba, vous avez dit qu'il faut revoir une révisitation de cet accord d'Addis Abeba et surtout... il faut également que la RDC, en tout cas vous avez cité par exemple l'exemple d'Angola, puisse faire en sorte qu'elle soit une véritable puissance militaire. Et ça sera une partie de solution pour la partie est de la RDC. Julien Paluku.
Oui, tout accord de paix a pour objectif d'asseoir une paix durable. Mais ce qu'on a observé en République démocratique du Congo, c'est que tous les accords de paix que nous avons signés ont donné une paix éphémère. C'est ce défi-là qu'il faut relever lorsque nous négocions, en fait, les accords de paix. Et donc, lorsque vous revisitez tous les engagements de l'accord cadre d'Addis Abeba, la RDC avait 6 engagements, la région avait 7 engagements, et je crois que la communauté internationale avait 5 engagements. Lorsque vous évaluez les différents engagements qui sont au total 18, seule la RDC a rempli ses engagements. Mais les pays de la région et la communauté internationale n'ont pas rempli leurs engagements. Parce que quand vous voyez, par exemple, la résolution 2098 qui avait été votée par le Conseil de sécurité, je crois le 28 mars 2013, la force, la brigade-là qui avait été créée par cette résolution avait pour mission de neutraliser et de diminuer l'expansion des forces armées, de les désarmer à l'est de la RDC. Est-ce que c'est devenu le cas? C'est-à-dire que la communauté internationale n'a pas rempli sa part qui était contenue dans cet accord. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qu'on devra faire, c'est d'évaluer cet accord, parce que tout le monde devra comprendre que la RDC ne va pas évaluer en vase clos, elle ne peut pas se passer de la communauté internationale, elle ne peut pas se passer des pays de la région, elle ne peut pas se passer de l'Union africaine. Elle doit être intégrée dans ces grandes organisations, mais tout en veillant sur sa souveraineté, sur sa puissance qu'elle doit construire pour que les pays qui ont toujours cru qu'ils peuvent déstabiliser la RDC, eh bien, trouvent que le temps de la distraction est révolu et que désormais la RDC peut aller négocier tête haute et non pas tête basse. Parce que chaque fois que nous allons en négociation, c'est quand nous sommes tenus à la gorge, quand nous sommes tenus au cou. Oui. Comme aujourd'hui, Goma est menacée, les gens nous appellent à la négociation. Pourquoi? Parce que nous ne serons même pas capables de voir les différentes dispositions de l'accord, étant donné que nous avons l'accord de coup. Voilà pourquoi on ne doit pas négocier quand on a l'accord de coup, parce que l'accord de coup vous empêche de lire correctement l'accord, parce que vous n'avez que ça pour vous sauver. Et c'est donc voilà cette disposition d'esprit que la RDC devra avoir dans les jours à venir, et les chefs de l'État y travaillent pour qu'ils puissent renforcer notre système de défense et de sécurité.
Voilà, merci beaucoup Julien Paluku, on va s'arrêter par là. Je rappelle que vous êtes ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Avec vous, on a parlé de cet accord d'Addis Abeba qui va totaliser 11 ans depuis sa signature le 24 février 2013. Donc il va totaliser 11 ans, c'est 24 février 2024. Merci Julien Paluku d'avoir été des nôtres et bonne journée à vous. Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Justiciala qui est à la mise en onde, à Stanislas Idiomi qui l'a réalisé. Coordonnée au micro, c'était Marcel Gomombalo. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de votre magazine des champs citoyens Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.